Il est 18h30 à Paris, l'heure du débat avec vous, Romain Ozoué. Bonsoir.
Bonsoir Véronique et merci à vous. On parle du monde de demain ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoué.
Avec cette question, le monde de demain se fera-t-il sans enfants ? On célèbre ce mercredi, la journée mondiale de l'enfance, dans un contexte de menace, selon les experts, menace d'une, je cite, « bombe démographique ». En cause, eh bien, la baisse de la natalité, une donnée pour bien se rendre compte de la situation. Déjà aujourd'hui, dans les deux tiers de la planète, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Alors comment expliquer ce phénomène ? À quoi ressemblera un monde vieillissant ? Et puis comment relancer la natalité ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Gilles Pison, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes démographe, conseiller de la direction de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur du livre Atlas de la Population Mondiale. Face à vous, David Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage Un monde sans enfants, le pire arrive, mais le meilleur peut suivre. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Frédéric Spinirny.
Bonsoir.
Directeur de l'hôpital de Tours, ancien DRH de l'hôpital Necker à Paris, philosophe, auteur du livre « Naître et s'engager au monde pour une philosophie de la naissance ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors le constat vaut partout ou presque. En Inde, l'état le plus peuplé du monde, le taux de fécondité est passé sous les 2 enfants par femme, chiffre qui atteint aux États-Unis 1,64 enfants par femme. C'est un chiffre historique aux États-Unis. Et puis je peux encore citer l'Europe. En Europe, le nombre de naissances a atteint son niveau le plus bas depuis 1960 en 2022. Première question, Gilles Pison, comment on peut expliquer ces situations qui sont communes dans des pays qui ont des cultures, des systèmes politiques si différents ?
Alors, il faut rappeler qu'on vit une période un peu unique de l'humanité et qui a commencé il y a 2 siècles, c'est la transition démographique, qui a vu d'une part la mortalité baisser, donc la durée de vie s'allonger, et puis la fécondité, le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde, diminuer à son tour. Autrefois, et partout sur la planète, les femmes mettaient au monde 5 ou 6 enfants chacune, hein, en moyenne, et la majorité de ces enfants mouraient en bas âge. Et partout sur la planète, on a vu donc la mortalité baisser et cette fécondité baisser. Simplement, ce mouvement a commencé en premier en Europe et en Amérique du Nord, il y a déjà 1 à 2 siècles. Hein. Et puis, il s'est propagé partout sur la planète. Donc, à leur tour, l'Asie et l'Amérique latine ont connu des progrès en matière sanitaire et une baisse de la mortalité. Et aussi, comme en Europe et en Amérique du Nord, il y a 1 à 2 siècles, une diminution de la fécondité. Les familles se sont mises à limiter volontairement les naissances. Et le dernier continent à avoir connu ce mouvement, à être entré dans ce mouvement, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique aussi connaît une diminution de sa fécondité. Les femmes, les hommes limitent volontairement leur naissance de plus en plus. Comme alors, les uns et les autres sont...
La proportion n'est pas du tout la même. Mais l'Afrique et les autres continents.
Oui, mais comme ces continents ont connu ces évolutions, ou connaissent ces évolutions à différents moments, et l'Afrique étant le dernier continent à être entré dans ce mouvement, eh bien aujourd'hui, c'est en Afrique que les femmes ont le plus d'enfants. Ouais. 4 en moyenne chacune, mais ça baisse. Et il y a 20 ans, c'était 5 enfants par femme. Il y a 40 ans, c'était 6 enfants. Et donc, c'est un mouvement général qui voit l'humanité changer de régime démographique et les familles, les couples souhaiter avoir moins d'enfants. Mais pourquoi ? Ben, c'est pour leur assurer une vie meilleure que la leur et de qualité. Et nulle part, si vous mettez au monde 5, 6, 7, 8 enfants, vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils aillent à l'école, fassent de bonnes études et de bons diplômes, et un bon métier.
C'était des préoccupations qu'on avait moins avant ?
Eh bien, beaucoup moins. D'abord, il y avait la mortalité qui faisait que la plupart des enfants, la majorité, mouraient en bas âge. Ça s'est terminé. Alors, c'est vrai qu'on en faisait beaucoup parce qu'il y avait le risque qu'un certain nombre meure. Puis les enfants, c'était une force de travail. à la ferme. Et aujourd'hui, les enfants, ça coûte. Ils vont à l'école. Bien sûr, il faut les habiller, il faut les nourrir. Et donc, les familles ne peuvent pas investir comme ça sur autant d'enfants. Donc, elles en ont peu et elles concentrent les efforts sur ces quelques enfants. Alors, avec ça, la situation est très contrastée encore d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre.
Mais la tendance est globale.
Mais la tendance est globale. Et avec ça, la question, est-ce que on ne souhaite plus avoir d'enfants ? Non.
On n'en est pas encore là, mais je voudrais vous poser la question. Est-ce que finalement, donc on a dit c'est normal, mais est-ce qu'il n'y a finalement pas de quoi s'inquiéter ? Quand par exemple les experts démographes dont vous faites partie disent attention, bombe démographique.
Alors, vous savez, jusqu'ici, on s'inquiétait de ce qu'on appelait l'explosion démographique. Et c'est intéressant que encore une partie des gens s'inquiètent qu'on soit trop nombreux et que la population explose. Alors, elle n'explose pas, mais il y a d'un autre côté, cette crainte qui montre qu'il n'y ait plus assez de naissances. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, la population mondiale, on est un peu plus de 8 milliards d'humains, elle continue à augmenter.
Ça, c'est important
et
de dire.
On devrait être 1 à 2 milliards de plus d'ici 2050. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux fois plus de naissances que de décès actuellement dans le monde.
Et c'est à partir de 2080, globalement dans le monde, que la population va vraiment baisser ?
Pourrait
baisser.
Les projections des Nations Unies publiées en juillet annoncent une poursuite de la croissance démographique mondiale, mais qui irait en ralentissant progressivement jusqu'à un maximum autour de 2080, et puis là, la population se mettant à baisser.
C'est finalement, nous dit Gilles Pison, une évolution cohérente avec l'évolution des sociétés mondiales, David Duhamel. Mais peut-être en tant qu'économiste, vous trouvez ça davantage inquiétant, vous, qu'il y ait cet inversement de tendance ?
Alors, non, pas en tant qu'économiste.
D'accord.
Je pense que la façon de voir qui peut peut-être rendre sens de cette évolution, c'est que c'est une trajectoire. Et donc, il y a la trajectoire de la population mondiale et puis il y a la trajectoire des pays qui la composent. Et donc, quand vous dites « mais l'Afrique, c'est beaucoup plus », M. Pison a raison de rappeler que c'est parce que l'Afrique est au début de la trajectoire, comme souvent l'Afrique est au début de son développement économique. Et puis quand on dit Afrique, c'est une variété de situations. Mais de même, il y a des pays qui, dès aujourd'hui, sont dans la baisse de la population. Et le problème de la baisse de la population, c'est donc qu'ils font vraiment très peu d'enfants, et notamment très peu d'enfants par femme. Il y a des cas qui sont complètement critiques, comme en Asie du Sud-Est, comme la Corée du Sud, par exemple.
Mais sous les 1 enfant par femme.
C'est même bientôt 0,6, sans doute. Donc ça veut dire qu'il faut 6 personnes pour faire un enfant en Corée du Sud tout de suite.
Et là, ça pose des questions économiques aussi.
Mais ça pose des questions.
Sur le renouvellement des générations.
Mais absolument. Mais la question la plus importante n'est presque pas une question économique. C'est une question.
Et c'est un économiste qui parle.
C'est une question politique aussi, parce que quand vous avez une société où de plus en plus les personnes âgées sont le bloc dominant, quel type de culture et de politique vous allez mener ? C'est une question sociale. Il faut bien comprendre qu'il y a le désir d'enfant des femmes. La nouveauté, en fait, c'est qu'elles ont de plus en plus le choix. C'est quand même extrêmement sympathique. Mais dans des sociétés où les femmes ne font plus d'enfants, il y a un caractère mimétique de ce choix. C'est-à-dire que faire un enfant quand tous vos amis autour de vous n'en font pas, ça devient extrêmement coûteux. Et je ne parle pas en termes financiers, je parle en termes de choix de vie. Et en Corée du Sud, donc 0,6 enfants par femme, ça veut dire qu'on voit de plus en plus de femmes qui n'auront pas d'enfants, qu'elles en font le choix. Et quand on regarde la société coréenne, on se demande... Alors là, oui, moi, je suis personnellement très inquiet. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a vraiment un lien direct entre niveau de vie, pouvoir d'achat et souhait d'avoir un enfant. Je vais citer l'Inde, pays le plus peuplé du monde. Finalement, dans les États les plus pauvres, c'est là où il y a la démographie la plus importante.
Oui, parce qu'en règle générale, dans l'histoire, la transition démographique s'est accompagnée d'une transition économique, d'un développement économique. Ça passe par l'urbanisation. En ville, on fait moins d'enfants qu'à la campagne. Ça passe par l'éducation. Quand on est au lycée, les jeunes femmes, les jeunes lycéennes n'ont pas tellement d'incitation à faire des enfants. Quand les jeunes femmes arrivent à l'université, encore moins. Ça retarde le moment d'avoir un enfant. Donc, un pays qui se développe économiquement se développe démographiquement. Ce qui est intéressant ces dernières années, c'est que le développement démographique va beaucoup plus vite que le développement économique. Donc, il y a des pays qui sont encore... on va dire, des pays émergents, des pays comme la Thaïlande ont maintenant des démographies semblables à des pays comme l'Allemagne, peut-être. Donc, ils jouent à saute-mouton un petit peu avec le développement économique. Mais maintenant, Effectivement, grosso modo, c'est dans les pays les plus riches qu'on fait moins d'enfants, mais il y a beaucoup de variations entre un pays comme la Corée du Sud et un pays comme la France qui va, quoi qu'on en dise, plutôt pas mal. Et puis, il y a le cas particulier d'Israël, mais bon, c'est aussi assez particulier.
Je vais donner la parole à Frédéric Spinieri dans un instant, mais Gilles Pison, je vous vois lever la main et je voudrais vous demander si aujourd'hui, encore dans le monde, bah, finalement, il faut choisir entre, pour une femme, faire des enfants ou avoir un métier. Et c'est alors, ce qui explique
justement,
la situation aujourd'hui.
C'est le sujet de fond. Parce que si en Corée du Sud, les femmes ont 0,6 ou 0,7 enfants en moyenne chacune, donc très nettement en dessous de 1, mais si les Chinoises en ont 1 en moyenne, les Thaïlandaises 1,2, les Italiennes, les Espagnoles 1,2 enfants en moyenne chacune, est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas d'enfants? Et alors, pas seulement elles, mais leurs partenaires, parce que la plupart des enfants, c'est des enfants d'un couple. Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et pour l'instant, les enquêtes qui sont menées régulièrement pour savoir quels sont les souhaits des personnes, quelles sont leurs intentions en matière de fécondité, ben elles montrent que la majorité des adultes qu'on interroge, ils disent souhaiter avoir un enfant un jour. Et si la fécondité est si basse dans un certain nombre de pays, c'est pas forcément parce que les gens ne souhaiteraient pas avoir d'enfants. Il y en a une partie qui souhaite en avoir, mais qui n'en ont pas ou pas tout de suite. Et c'est ça, les questions peut-être.
Alors, attendez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voudrais juste aller très très vite, j'ai bien compris. Parce qu'il me semble quand même que les quelques enquêtes très sérieuses démographiques en la question datent un petit peu.
Et sur la question du désir d'enfant.
Ouais,
j'aimerais interroger le philosophe.
Alors,
ensuite,
je vous laisse avec le philosophe.
Alors, Frédéric Spinirny, le désir d'enfant, il n'est pas en recul aujourd'hui, malgré, encore une fois, les perspectives de baisse de la démographie annoncées qu'on évoque ce soir?
Ce qui vient d'être dit, moi, m'intéresse beaucoup, surtout ce que précise Gilles Pison, c'est que les enfants, ça coûte cher. Donc je me demande en fait si on n'est pas en train de partager une même culture, contrairement à ce que vous avez dit en début d'émission, on est en train de partager une culture où tous les êtres vivants commencent à avoir une valeur économique et du coup on a réflexe ce calcul entre les bénéfices et les risques de faire un enfant. Et donc c'est peut-être parce que l'enfant vient d'être inséré dans nos réflexions économiques que ça va devenir un enjeu économique. Je reviens sur quelque chose qui est aussi important, c'est le développement du style de vie urbain. Et peut-être que le désir d'enfant, il est aussi façonné par le style de vie des urbains. Et pour moi, ce qui est important en tant que philosophe, c'est que les débats sur la natalité, elles reposent sur une modification qui me semble inquiétante de notre rapport à l'autre. Avoir un enfant semble réduire l'espace d'autonomie des individus, l'autonomie qui est largement renforcée par une survalorisation culturelle et médiatique constante. Et j'ai l'impression, encore une fois, que c'est une valorisation culturelle qui est plutôt bien partagée. Ensuite, il me semble que cette valorisation, elle tourne autour d'un discours professionnel ou, mettons, managérial sur tous les plans de la vie quotidienne, notamment le développement personnel sur le lieu de travail. Ça vient d'être dit, la préférence pour le travail plutôt que pour la vie familiale, mais aussi une expression de soi, pardon, à travers la consommation d'objets à la mode, le dépassement de ses propres limites, etc. Et pour moi, ça conduit à une érosion de la capacité d'attachement. On le voit bien sur les récentes enquêtes qui concernent la fameuse récession sexuelle, encore un terme qui est emprunté à l'économie. Il y a quelque chose quand même de la relation à l'autre qui moi, m'interroge un peu plus que les facteurs économiques qui sont tout à fait importants.
Donc les sociétés, d'un mot, sont de plus en plus individualistes et voilà pourquoi finalement le monde se fera, en tout cas avec, peut-être pas sans enfants, mais avec moins d'enfants demain.
Il y a une valorisation du self-made man quand même. Il y a la valorisation, encore une fois, de ce que j'appelais l'autonomie, cette espèce de mythe de se créer soi-même, d'avoir ses propres projets, de se raconter une histoire comme partant de nulle part et construisant une vie réussie à travers des succès qui sont malheureusement souvent professionnels ou économiques. Donc oui, il y a une limite de l'individualisme qu'il faut aussi qu'on prenne en compte. Et je pense que c'est pas forcément que occidental, c'est quelque chose qui se développe beaucoup.
Mais David Duhamel, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas encore une fois assez la possibilité aux femmes, et ça, c'est quelque chose qu'on observe partout dans le monde, d'être mère et d'avoir un métier?
Oui, ben, alors, c'est exactement ça dont j'allais parler. Vous ne m'avez pas vu, Monsieur Spiridi, mais j'ai fait un bond quand vous avez dit que c'est un choix économique d'avoir un enfant et que c'est nouveau, parce que pour moi, c'est toujours été un choix économique depuis la nuit des temps. Simplement, c'est un choix économique que les femmes payaient exclusivement. Et en fait, elles n'acceptent plus ce partage, la facture n'est plus que pour elles, elles ont davantage le choix, et c'est justement ça qui est formidable. Et donc le choix de dire non, le choix de choisir une carrière, de se retirer de ce partage inégal. Et donc absolument la marche vers une fécondité retrouvée, c'est un partage le plus égalitaire possible du prix d'avoir un enfant. Parce qu'avoir un enfant, ça a absolument toujours un prix. Après, je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit sur la culture individualiste, mais vraiment, on découvre que c'est un choix économique, parce qu'avant, c'était les femmes qui payaient tout en silence. Et elles ne l'acceptent plus. Et c'est pour ça que c'est en Corée du Sud que c'est le plus patent, parce que c'est en Corée du Sud où une jeune femme peut être relativement libre, mais une jeune mère ne peut toujours pas l'être.
Alors, c'est un choix économique. Je vais peut-être vous contredire, mais je voudrais vous citer cette étude qui avait été publiée dans la revue The Lancet, qui dit que d'ici 2100, 77% des naissances, donc les trois quarts des naissances, auront lieu dans un pays pauvre.
Oui, ben ça veut dire que c'est bien dans les pays pauvres, aux structures les plus traditionnelles, que les femmes ont le moins de choix. Donc la fécondité est la plus grande. Plus vous leur donnez le choix, plus vous allez voir la fécondité baisser.
Gilles Pison.
Oui, alors je voudrais compléter là. Pourquoi cette très faible fécondité dans un certain nombre de pays? Alors quand on compare les pays entre eux, par exemple en Europe, les pays où les femmes font le plus d'enfants, ben, c'est des pays alors, comme la France, comme les pays scandinaves, et ceux où on fait le moins d'enfants, c'est l'Italie, l'Espagne, 1,2 enfants. Et pourquoi ? Enfin, quelles sont les différences entre ces pays ? Alors, tous les pays d'Europe ont une politique familiale qui vise à aider les familles au moyen de congés parentaux, d'allocations, d'offres de garde d'enfants, hein, pour permettre aux familles. Et puis, toutes ces politiques, bon, elles visent à favoriser la conciliation entre le travail et la famille, notamment pour les femmes. Alors, elles sont plus ou moins généreuses. En Italie et en Espagne, la part du PIB que représente cet investissement de l'État est quand même sensiblement plus faible que celle que consacre la France ou l'Allemagne ou les pays scandinaves. Mais au total, ce qui semble jouer le plus, c'est les inégalités entre hommes et femmes. Et les inégalités au travail, le fait de, pour un travail égal, ne soit pas payé le même salaire, ou à la maison, l'inégalité dans le partage des tâches. Et probablement que c'est ça la
Bien
clé.
Sûr. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, encore une fois, je redis cette phrase, les femmes doivent choisir.
Et finalement, une politique qui pourrait avoir une efficacité, c'est celle qui vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes, donc à favoriser le travail des femmes, et en même temps, donc aussi à... Et ben, ça ne se prend pas comme ça, comme mesure. Et les Italiennes, les jeunes, qui maintenant font des études longues, qui ont des diplômes, qui souhaitent travailler, continuer à travailler, elles hésitent à se mettre en couple, à se marier, parce qu'elles savent que c'est un engrenage qui va les amener à avoir un enfant et que si elles ont un enfant, il va y avoir la pression de la famille, du milieu, pour qu'elles arrêtent de travailler pour s'occuper de leur enfant. Et elles ne veulent pas d'une vie comme celle de leur mère ou de leur grand-mère. Et c'est le même schéma en Asie de l'Est, en Corée du Sud, en Chine. Se rajoutent des problèmes d'exuite du logement. Vous savez que maintenant, en Corée, en Chine, les logements qu'on a construits en ville, mais c'est tout petit. Où est-ce que vous allez caser un enfant ? Et donc, il y a ces facteurs. Les inégalités entre hommes et femmes, plus vous œuvrez pour les réduire, ben, plus vous avez de chances de que la natalité réaugmente.
Et d'un mot, avant qu'on passe à la seconde partie du débat, vous avez l'impression que les politiques familiales, elles ne vont pas dans le sens d'une réduction des inégalités hommes-femmes, parce que ce qui est paradoxal, c'est que, on peut citer par exemple la Suède, qui est souvent citée en exemple en termes de politique familiale, bah, là aussi, il y a une baisse de la natalité. Je peux citer la Chine, où par exemple, il y a eu la fin de l'enfant unique en 2016, Ça a pas changé grand-chose. Et selon les démographes, même s'il n'y avait pas eu la fin de la politique de l'enfant unique, la fécondité aurait baissé. Comment on peut expliquer cet échec général des politiques féminines?
Il y a la politique de trois enfants maintenant en Chine depuis 2022. Et donc les mauvais citoyens, c'est ceux qui n'auront pas d'enfants, qui n'en auront pas trois, alors qu'il y a quelques années, c'était ceux qui en avaient plus de un. Donc ça a changé à 180 degrés, sans effet sur la fécondité. Au contraire, elle n'a jamais été aussi basse. Alors il faut se dire qu'une politique de population qui vise soit à augmenter les naissances, soit à les diminuer, pendant longtemps on a eu des politiques visant à diminuer, eh ben, elles n'ont pas d'effet ou que très modeste. Et à la condition d'aller dans le sens du souhait des familles. Et donc, bien sûr, c'est bien d'en organiser une, mais ça ne marche pas comme ça.
Les mesures de réarmement démographique, pour reprendre un terme cher
alors,
au président français,
pas ce terme parce que
ça fonctionne pas.
Ils sont pas. Ben non. Les taux de fécondité, un taux de fécondité, il ne se décrète pas en Conseil des ministres. C'est quand même les décisions des couples et tout ce qui peut favoriser la conciliation entre le travail et la famille. La réduction des inégalités entre hommes et femmes. Et puis, tout un tas d'autres mesures. On parlait de l'exiguïté des logements. Enfin, peut-être peuvent avoir un effet, mais que modeste.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Le monde va-t-il arrêter de faire des enfants? La question qu'on pose ce soir en cette journée mondiale de l'enfance. Et alors que, je le disais déjà, dans les deux tiers de la planète, le renouvellement des générations n'est plus assuré et que les perspectives eh bien, annoncent une population mondiale qui pourrait augmenter jusqu'au maximum 2080 avec des disparités. Mais en tout cas, après 2080, il y aurait une baisse de la démographie. Mes trois invités, Gilles Pison, que l'on entendait, démographe, conseiller de la direction de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, David Duhamel, économiste, enseignant à Sciences Po Paris, et Frédéric Spinirny, à qui je vais donner la parole à présent, directeur de l'hôpital de Tours, ancien DRH de l'hôpital de Necker à Paris, et philosophe. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander, vous en tant que philosophe, on a bien vu les perspectives, on a évoquer les pistes pour enrayer ces perspectives, mais les démographes sont d'accord pour dire que la population va baisser après 2080. À quoi ça va ressembler un monde vieillissant?
Oui, c'est une bonne question, puisque, encore une fois, on a l'impression, c'est ce que vous disiez, que les solutions économiques vont pas résoudre forcément, même si, encore une fois, c'est, je pense, la base de ce qu'il faut faire, notamment autour de la petite enfance, mais elles vont pas résoudre la question du désir. Et c'est quand même un mot qui a été prononcé. Ouais. Et c'est pour ça que la question du désir, elle va aussi devoir être traitée d'un point de vue culturel. Donc là, on en a déjà parlé, et c'est pour ça que je me permets d'insister sur cette définition, encore une fois, d'un désir qui est plus large que la seule possibilité matérielle de faire des enfants ou de les accueillir. Mais c'est sûr qu'un monde vieillissant, ça va poser la question, même politique, de la transmission entre générations, parce que oui, il risque d'y avoir un pic et une baisse de la population mondiale, mais encore une fois, si on se considère comme étant des êtres seuls, ne devant pas ou ne souhaitant pas faire beaucoup d'enfants, il y a la question de la transmission quand même de ce qui a été fait avant nous et de la capacité quand même à transformer le monde actuel pour quelqu'un. Et c'est pour ça que, dans le fond, moi, la question du grand remplacement qu'on met souvent en avant pour effrayer un peu les petits-enfants, elle m'inquiète pas tant. C'est pas la question du grand remplacement que la question du fait d'être remplacé par rien. Et c'est ça la question d'un monde vieillissant, c'est que peut-être qu'on va tous se retrouver vieux en se disant « et après quoi ?» Et je pense que c'est une question fondamentale, même politiquement.
Alors ça, c'est intéressant. Après quoi? Alors, David Duhamel, moi, je voudrais réagir au titre de votre ouvrage. Un monde sans enfants, le pire arrive, mais le meilleur peut suivre. Ça peut être quoi le meilleur alors?
Alors justement, donc là, je vais surtout parler des pays qui sont déjà en crise démographique, donc à l'avant-garde de ce problème, et qui voient leur population diminuer ou en passe de diminuer, qui voient leur population active diminuer et qui voient surtout leur population vieillir, puisqu'en fait, assez vite, ce qui se passe quand vous faites plus d'enfants, c'est que vous avez beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce qui va être alors, bon, il y a des cas critiques, encore une fois, la Corée du Sud, la Chine, c'est assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir tous ces pays, et nous y compris, face à ce problème de vieillissement, de changement social, politique, économique. Et donc, on va voir des pays tenter des trucs pour s'en sortir. Là, les Russes, par exemple, viennent de voter une loi pour interdire la propagande du mode de vie sans enfants. Bon, c'est, à mon avis, c'est complètement pathétique et ridicule. Mais voilà, on va voir les pays tenter plein de choses. Et donc, on va voir, à mon avis, les pays qui vont réussir mieux que d'autres. Peut-être pas super bien, mais en
vous
tout cas mieux que d'autres.
Vous pensez à quel pays ?
Non, je pense surtout à quelle politique.
Okay.
Et là, c'est là où j'ai espoir, et je pense que malgré la gravité du changement démographique qui nous arrive, il va y avoir des pistes qui sont assez optimistes, assez salutaires, et qui vont de égalité homme-femme à tous les étages, ouais, comme vous l'avez dit, M. Pison, alors là, ça fait aucun doute, tolérance vis-à-vis des modes de vie différents, tolérance vis-à-vis des minorités religieuses ou ethniques dans un pays, immigration sereine, ce qui est évidemment plus facile à dire qu'à faire, redécouvrir que les 65-75 ans, ce n'est pas un fardeau, mais en fait une ressource, et mettre-les à profit dans l'économie, réduire les inégalités, de façon à avoir notamment une politique publique du logement qui permette plus facilement le projet parental. Et si vous faites tout ça, c'est-à-dire en fait une forme de natalisme progressiste, si vous voulez, eh bien vous allez vous en sortir beaucoup mieux qu'un pays comme la Corée du Sud ou la Chine qui fait en gros le contraire et qui s'enfonce dans une voie comme un toboggan qui disparaît dans l'obscurité. C'est un petit peu au revoir à la Corée du Sud, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne comprends pas ce qui se passe en Corée du Sud.
Mais alors j'aurais un plus grand temps que la Corée du Sud, parce qu'il nous reste une minute et demie. Gilles Pison, j'aurais terminé avec vous justement. Pour relancer cette natalité, parce que on n'a pas parlé de la crise climatique, par exemple, parce que ça joue. Est-ce que ça joue? À quel point ça joue aujourd'hui? Il y a le choix entre procréer ou réduire son empreinte carbone. Le désir d'enfant, il joue là aussi. Les crises. Est-ce que seule la fin des crises actuelles peut permettre un apaisement et permettre aux générations actuelles d'avoir des enfants?
On a besoin de plus d'informations et de recherches pour savoir quels sont les facteurs qui joue dans la fécondité qu'on observe, mais aussi dans les intentions de fécondité que les personnes expriment. Et un certain nombre de pays développés mènent régulièrement des enquêtes pour sonder donc des échantillons représentatifs sur leurs intentions de fécondité. La France vient d'en effectuer une il y a quelques mois. Et l'échantillon de personnes interrogées une première fois, il est réinterrogé 3 ans plus tard. Et on essaie de voir si ceux qui ont dit la première fois, non, moi, je veux jamais d'enfant, je n'aurai jamais d'enfant. Est-ce qu'effectivement, ils n'en ont pas eu? Ou est-ce qu'ils en ont eu? Et puis, à l'inverse, ceux qui ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'avoir un enfant dans les 12 prochains mois ou dans les 2 prochaines années, est-ce qu'ils l'ont eu? Et on s'aperçoit qu'alors, entre les intentions et la réalisation, il y a des différences. Et puis, comme on recueille d'autres informations, on va essayer de savoir si ceux qui disent « Oh non, moi, je ne veux pas avoir d'enfant », quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on va sonder pour savoir si est-ce que l'anxiété vis-à-vis du changement climatique.
Il nous reste 30 secondes, mais ça, est-ce que c'est révélateur, encore une fois?
Et
parce
donc,
que la situation est mondiale.
On va avoir dans quelques mois un peu plus d'informations, en tout cas pour la France.
Pour la France.
Qu'est-ce qui explique? Et comme ces enquêtes sont menées dans d'autres pays, eh bien, on va pouvoir faire des comparaisons d'un pays à l'autre.
Et c'est intéressant parce que quand je dis de la crise climatique, j'évoquais les États-Unis, où il y a un mouvement qui se développe pour qui, en fait, il y a choisir entre avoir des enfants ou lutter contre la crise climatique. Merci beaucoup. Donc, le monde va-t-il arrêter de faire des enfants? Eh bien, non, à condition de favoriser cet enjeu primordial qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ce qui ressort de ce débat. Merci beaucoup à vous trois. Gilles Pison, démographe, conseiller de la direction de l'INE, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, David Duhamel, économiste, enseignant à Sciences Po Paris, et Frédéric Spinirny, directeur de l'hôpital de Tours, philosophe. Merci à Florence Ponce, à la préparation de ce débat, Claude Battista, à sa réalisation. Allez, coup d'œil à la pendule, dans un peu plus d'une minute, elle est déjà là, Diane Berger, pour le grand journal du soir. Nous irons en Ukraine notamment, puis ce sera l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, Zéphirin.
Les déboires judiciaires de la chanteuse malienne Rokia Traoré. La Cour de cassation de Rome confirmant effectivement son extradition vers la Belgique, condamnée par défaut à 2 ans de prison par la justice belge. La chanteuse avait été arrêtée en Italie en juin dernier. Nous irons aussi au Mali où des organisations de la société civile dénoncent le maintien en détention des 11 anciens ministres et dirigeants de partis politiques arrêtés le 20 juin dernier à Bamako. leur demande de libération provisoire acceptée par le juge ont été rejetées par le parquet. Nous parlerons également de la situation des personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo, une région en proie à des violences. La directrice des opérations et du plaidoyer de l'agence onusienne pour les personnes déplacées tire la sonnette d'alarme. Nous l'entendrons.
Et ça sera dans 30 minutes. Merci Zéphirin Quadio.